La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à la parole des contes. Donc nous avions déjà abordé la question de l'âne, où l'âne à travers les contes se servant de l'âne pour dire des histoires différentes. Et nous voici à un endroit, une petite maison, un homme et un bœuf et un âne. Aussi, un paysan vivait tranquillement avec donc son âne et son bœuf. Ils étaient bien entretenus, ils avaient une nourriture suffisante et toujours de l'eau fraîche. Et l'âne travaillait peu, mais le bœuf travaillait beaucoup, tandis que l'âne restait à se prélasser à l'ombre de l'étable, car le paysan ne le montait que très rarement. Le bœuf avait plus à faire. Il devait tirer la charrue, tourner la roue à eau et faire tourner la meule. Le soir, il était bien fatigué et il jalousait l'âne paresseux. Il lui dit un jour, « Oh, toi, tu as la belle vie. Tu restes toute la journée couché sur ta litière. Tu manges, tu bois. Et même s'il te faut une fois ou l'autre porter notre maître, quelle importance. Il est léger comme une plume. » À côté du joug que j'ai sur les épaules. Ah, si je pouvais rien qu'une fois avoir une belle vie comme la tienne. Ah. Et l'âne lui répondit, c'est facile, écoute. Le matin, quand le valet viendra pour t'emmener au travail, tu n'as qu'à faire comme si tu étais malade. Reste couché, baisse la tête, ne mange rien. Ne te lève surtout pas, même s'il te frappe. Tu vas voir, il va te laisser à l'étable et tu pourras ainsi passer une bonne journée. Le bœuf lui dit, tu es rusé, je ferai comme tu dis. Le paysan était dans les environs. Et le lendemain matin, le valet vint dire au paysan, le bœuf reste couché, il mange rien, il ne se lève pas, même si je le bats. Ah, dit le paysan, c'est qu'il est malade. Enlève-lui le foin et l'eau, s'il jeûne, il guérira plus vite. Et il emmena l'âne au champ pour le remplacer. Le soir, l'âne rentra, chancelant, s'écroula sur la paille. Son poil était hérissé et poussiéreux, et sa nuque toute râpée et douloureuse. L'âne gémit. « Ah, jamais plus je ne donnerai un conseil pour t'aider. J'en étais bien puni. Le soleil m'a brûlé, la poussière m'a sali, tous mes os me font souffrir. » Le bœuf lui répondit. « Oh ben, c'était pas un bon conseil. Hein. Je suis resté ici toute la journée tout seul. « Oh, j'aime mieux être dans les champs où j'ai des choses à voir, des choses à entendre. Et en plus, je suis mort de faim. Je n'ai rien eu à boire, rien à manger. » Et le paysan dit à son serviteur, « Si le bœuf n'est pas guéri demain, il faudra le tuer. Nous avons notre âne qui pourra faire son travail. » Le lendemain matin, le bœuf sauta partout pour montrer sa bonne santé. Il ne fit aucune difficulté pour aller travailler. Et le paysan lui fit une litière de la meilleure paille et lui donna à manger autant qu'il en voulait. Et plus jamais, il a demandé à l'âne de le remplacer.
Oh.
Et maintenant, une autre histoire. L'âne salade. Ou comment devenir un âne, ou comment retrouver sa forme humaine. Les métamorphoses. Vous voyez plus tôt. Il était une fois un jeune chasseur qui s'en était allé chasser à l'affût dans la forêt, le cœur léger en sifflant avec une herbe. Il se rendait à son poste d'affût quand il vint à rencontrer une vieille petite bonne femme, horriblement laide, et qui lui parla « Ah, bonjour, joyeux chasseur. Ah, tu es jeune et heureux de vivre. Ah, mais moi, qui suis vieille, ah, j'ai grand faim et grand soif. Montre-toi généreux et fais-moi l'aumône. » Ému de compassion à la vue de la pauvre petite vieille, le jeune chasseur fourra sa main à la poche et lui tendit une pièce, car il n'était pas riche. Il allait poursuivre son chemin quand la veille l'arrêta.
Écoute ce que je viens de dire, mon brave chasseur. Ah, t'as bon cœur. Ah, c'est pourquoi je te ferai un don. Continue à marcher. Et dans un petit moment, tu seras près d'un arbre sur lequel tu verras 9 oiseaux perchés en train de se disputer à grands cris, se disputer un manteau qu'ils tiennent dans leur serre. Épaules en fusil, tire dans le tas. Ce qui les fera à coup sûr lâcher le manteau. Et en même temps, l'un des oiseaux mortellement atteint tombera aussi. Emporte le manteau, c'est un manteau magique. Il suffit de l'avoir jeté sur ses épaules pour se trouver instantanément au lieu où l'on souhaite se trouver. Tu prendras aussi le cœur de l'oiseau mort et tu l'avaleras d'un coup. Ainsi, tu auras chaque matin une pièce d'or sous ton oreiller à ton réveil.
Le chasseur remercia la sorcière, tout en se disant « Ce serait quand même une belle chose si ce qu'elle m'a promis se produisait vraiment. » Il n'avait pas fait 100 pas qu'il entendit au-dessus de lui, dans les branches d'un arbre, les oiseaux tiraient du bec et des pattes sur une pièce d'étoffe, chacun pour soi, essayant de l'arracher aux autres, comme pour l'avoir à soi tout seul. Ils se bousculaient, se battaient et criaient à qui mieux. Ah, voilà qui est pour le moins bizarre, pensa le jeune chasseur. Mais en tout cas, c'est exactement ce que la vieille a prédit. Alors il épaula sa carabine et il fit voler des plumes et toute la troupe s'enfuit à tire-d'aile en poussant des cris affolés. Toute la troupe, sauf un oiseau, tué sur le coup, qui tomba sur le sol en même temps et au même endroit que le manteau lâché par les fuyards. Obéissant à ce que la vieille lui avait dit, le jeune chasseur alla ramasser le manteau et l'oiseau. Il ouvrit l'oiseau pour lui prendre le cœur et l'avalait d'un coup. Puis il rentra chez lui avec le manteau. Le lendemain matin, en se réveillant, il repensa soudain à ce que lui avait prédit la vieille et regarda sous l'oreiller, curieux de voir. La pièce d'or y était, toute brillante dans la lumière du jour. Et le lendemain, il y en avait une autre, et tous les jours, une autre. Au bout d'un certain temps, comme il avait tout un monceau de pièces d'or, le chasseur se dit « À quoi bon avoir tant d'or si je reste à la maison et n'en puis rien faire ? Je vais partir et aller voir du pays. » Il dit adieu à ses parents, prit son fusil, sa gypsière et le manteau et s'en alla voyager dans le monde. Un beau jour, après avoir traversé une sombre forêt, il se trouva soudain devant un château majestueux. À l'une des hautes fenêtres se tenaient une vieille femme et une ravissante jeune fille, toutes deux regardées vers le bas. La vieille, qui n'était rien moins qu'une sorcière, disait à la jeune fille, en voyant approcher le jeune homme,
« Celui qui sort de la forêt là-bas possède un merveilleux trésor dans son corps, et c'est pourquoi nous devons le charmer, ha, ma fille, parce qu'un tel trésor sera encore mieux avec nous qu'avec lui. » Il a dans son corps le cœur d'un oiseau, ce qui fait que chaque matin, il trouve une pièce d'or sous son oreiller.
La sorcière raconta alors à sa fille comment la chose s'était faite. Puis elle lui dit comment elle devait s'y prendre pour séduire et charmer le jeune homme. Après quoi, elle la menaça en lui faisant les gros yeux.
Ah, si tu ne fais pas ce que je te dis, et si tu ne m'obéis pas strictement, ce sera ton malheur.
Le chasseur s'était approché pendant ce temps, et tout en regardant la ravissante jeune fille à la fenêtre, il se disait il y a assez longtemps que je vais de droite, de gauche. Il commence à être temps que je m'arrête un peu. Je vais entrer dans ce beau château et y faire séjour pour prendre un peu de repos. Ce n'est pas l'or qui me fera défaut. Oh, la vraie raison, c'était le regard qu'il avait jeté sur la belle apparition, hein, chers auditeurs. Il entra dans l'habitation où il reçut un accueil cordial et où il fut traité avec les plus grands égards. Il ne lui fallut pas longtemps pour tomber follement amoureux de la fille ravissante, si amoureux qu'il ne pensait plus à rien d'autre qu'à plonger ses regards dans ses yeux et à guetter ses moindres désirs afin de la satisfaire.
Bien, 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 bien. À présent, nous allons avoir le cœur de l'oiseau sans même qu'il s'aperçoive qu'il ne l'a plus.
La sorcière se livra des préparations et des décoctions qui donnèrent un breuvage qu'elle versa dans une coupe. Cette coupe fut confiée à la jeune beauté pour qu'elle la fît boire au chasseur. La coupe en main, la jeune fille l'invita à venir boire à sa santé, non sans l'appeler « mon bien-aimé » avec un sourire enjôleur. Le jeune homme accourut, vida la coupe d'un trait, et sous l'effet de ce breuvage, il rendit le cœur de l'oiseau sans s'en apercevoir. Pour obéir aux ordres de la vieille, la jeune fille devait s'en emparer en cachette et l'avaler elle-même. Elle le fit donc. Et désormais, ce fut elle qui eut chaque matin la pièce d'or sous son oreiller. Et lui, non. La sorcière venait prendre l'or chaque matin chez sa fille. Quant à lui, il était si éperdu d'amour, si complètement égaré, qu'il ne s'en aperçut même pas. Il n'avait qu'une idée en tête, passer son temps avec la demoiselle.
Bien, bien, bien. Nous possédons le cœur de l'oiseau. Il faut maintenant posséder le manteau.
Mais le manteau, mère, nous devrions le lui laisser. Puisqu'il a déjà été dépossédé de sa richesse.
Un manteau pareil, mais tu n'y penses pas, ma fille. C'est un manteau magique. Il n'en existe que très rarement au monde. Je veux l'avoir et je l'aurai.
Alors elle expliqua à sa fille comment elle devait s'y prendre avec le chasseur, en ajoutant que si elle ne lui obéissait pas point par point,
« cela irait très mal pour toi !»
Réduite à l'obéissance par ses menaces, la jeune fille prit un air triste et songeur, en restant devant la fenêtre, le regard perdu dans l'ample paysage. Comme il fallait s'y attendre, le chasseur amoureux vint et lui demanda ce qu'elle faisait là. Pourquoi avait-elle l'air si triste ?«
Oh, mon chéri !» C'est que là-bas, au loin, tout là-bas, se dresse le mont des Grenats, où croissent les pierres précieuses les plus rares et les plus splendides, qui me font tellement envie. Je ne peux pas y penser sans tomber dans une tristesse profonde. Qui pourrait en rapporter de là-bas? Seuls les oiseaux, parce qu'ils volent, peuvent y parvenir, mais un homme, jamais.
Oh, si c'est ton seul sujet de plainte, affirma le chasseur, c'est un chagrin dont j'aurais tôt fait de soulager ton cœur.
Il la prit aussitôt sous le manteau qu'il avait jeté sur ses épaules, souhaita être là-bas, sur le mont des Grenats, où ils furent tous deux à l'instant même, éblouis par les feux des nobles pierres qui scintillaient de tous côtés, inondés de joie par la seule splendeur de ce spectacle merveilleux, et n'ayant que la peine de choisir les plus belles pièces pour les avoir. Cependant, la vieille sorcière avait usé de son art pour envoûter le jeune chasseur et faire que ses paupières s'alourdissent, qu'il se sentit accablé de fatigue. « Oh, ma chérie, nous allons nous reposer un peu maintenant. Je me sens si fatiguée que c'est à peine si je tiens encore debout. » Ils s'assirent tous deux. Puis le chasseur posa sa tête sur les genoux de la jeune fille et s'endormit aussitôt. Dès qu'elle le vit endormi, elle lui dénoua son manteau, le lui enleva, le jeta sur ses épaules à elle, recueillit les grenats et les autres pierres précieuses et souhaita se retrouver chez elle. Plus tard, lorsque le chasseur sortit de son sommeil magique, il se réveilla tout à fait. Et quelle ne fut pas sa stupéfaction en s'apercevant que sa bien-aimée l'avait trahi et abandonné seule sur la sauvage et impraticable montagne. Hélas, hélas, que la déloyauté est grande en ce bas monde! Le cœur meurtri, l'âme en peine, l'esprit plein d'angoisse quant à sa position critique, le malheureux ne savait plus que faire ni comment se sortir de là. La montagne appartenait à de sauvages géants qui avaient là leur séjour et il n'eut pas longtemps à attendre pour en voir trois qui approchaient. Vite il se recoucha, fit comme s'il dormait du plus profond sommeil. Quand ils furent près de lui, un premier géant le poussa du bout du pied.
« Qu'est-ce que c'est que cette espèce de petit ver qui m'a l'air de se regarder en dedans ?»«
Écrase-le !» dit le second géant.
« Oh, à quoi bon se donner cette peine ?» dit le troisième.
« Tu n'as qu'à lui laisser la vie, puisque de toute façon, il ne peut pas rester ici.
Et que s'il arrive au sommet, les nuages l'enlèveront. » Et l'emporteront au loin. »
Les géants s'éloignèrent tout en parlant, sans plus s'occuper du chasseur, qui, lui, avait pris bonne note de ce qu'il leur avait entendu dire. Et quand ils eurent disparu de sa vue, il se leva, entreprit son escalade pour atteindre le sommet. Quand il y fut, il vit arriver un nuage qui le saisit, l'emporta en plein ciel, où il flotta pendant un certain temps. Puis le nuage descendit peu à peu vers la terre et vint tout doucement se poser entre les murs qui entouraient un immense jardin potager, au milieu duquel le chasseur se retrouva sans aucun mal, tout seul, parmi les choux et d'autres légumes. « Ah, si je pouvais seulement trouver quelque chose à manger !»« J'ai grand faim, je suis prêt à défaillir, et qui sait ce qui m'attend plus loin ?» Mais je vois rien que des légumes verts dans ce jardin. Pas une seule pomme, pas une poire, aucun fruit. Bon, à défaut d'autre chose, je veux bien manger de cette salade. Au moins, ça me rafraîchira un peu, et cela ne sera pas difficile à avaler. La salade, ça n'a pas trop de goût.
Choisissant une jolie tête de salade bien paumée dans la planche qu'il avait devant lui, le chasseur en prit quelques feuilles et commença à les manger. À peine en eut-il avalé quelques bouchées, voilà qu'il se sentit tout drôle, complètement changé. et lui avait poussé quatre pattes, une grosse tête avec de longues oreilles, il s'est aperçu avec horreur qu'il était devenu... Cette métamorphose n'avait pas diminué sa fringale, bien au contraire. Et comme, selon sa nouvelle nature, la salade lui paraissait avoir un goût exquis, il se mit sérieusement à brouter, dévorer, avaler des salades avec avidité. Il semblait ne plus jamais s'arrêter. Quand il eut mangé tout ce qu'il avait devant lui, il passa sans désemparer à une autre espèce de salade. Et voilà qu'aux premières feuilles qu'il avala, il se sentit de nouveau tout drôle et se trouva de nouveau changé. La transformation, cette fois, lui avait rendu son corps d'homme. Alors le chasseur s'allongea sur le sol et dormit autant qu'il en avait besoin. Lorsqu'il se réveilla le lendemain, il alla cueillir une salade de chaque sorte. Celle qui transforme un humain en âne et celle qui transforme un âne en humain. Voilà qui m'aidera à reprendre mon bien et à punir la perfidie comme il convient. Emportant les deux salades, il escalada le mur du jardin et s'en alla à la recherche du château de ses amours. Il le découvrit. Il se noircit le visage avec de la poussière pour se rendre méconnaissable. Il alla au château demander l'hospitalité. « Oh, je suis si fatiguée que je suis incapable d'aller plus loin. »
« Qui êtes-vous, compère? Et quel métier avez-vous ?»«
Je suis un messager du roi. » Et ma mission était de rapporter à la cour la salade la plus exquise qui croisse au monde. J'ai eu assez de chance pour la trouver et j'en rapporte avec moi. Mais avec la chaleur qu'il fait, j'ai bien peur que cette délicate salade ne vienne à se flétrir et je doute de pouvoir la conserver plus longtemps. Cette allusion à une salade aussi exquise ne pouvait qu'exciter la sorcière qui en eut l'eau à la bouche.
Ah, vous devriez me permettre d'en goûter, mon cher.
Oh, pourquoi pas ? Fit-il comme en se laissant faire. J'en ai deux têtes et je veux bien vous en offrir une. Ouvrant son sac, il en tira la salade qui transformait un humain en âne. Impatiente de s'en régaler, la vieille sorcière courut elle-même à la cuisine pour la préparer. Peine l'eut-elle fatiguée, ne pouvant attendre de la porter sur la table, elle en prit quelques feuilles avec les doigts et les mangea. Perdant aussitôt son apparence humaine pour devenir une ânesse qui partit galoper dans la cour. Arrivant à son tour dans la cuisine et voyant cette salade prête, la servante l'emporta pour aller la servir. Et sans manquer à ses petites habitudes... Tout en l'apportant à la salle à manger, elle en piqua quelques feuilles du bout des doigts. Et aussitôt la servante devint une ânesse qui trotta rejoindre sa compagne dans la cour. Cependant que le saladier tombait par terre avec le reste de la salade bizarre. Le messager du roi, pendant ce temps, était resté en compagnie de la jolie demoiselle. Il se doutait que la plante avait fait son effet sur la vieille, et comme personne ne revenait apporter la salade, il dit « Je me demande ce qu'il advient de cette salade. Je vais aller un peu voir à la cuisine ce qu'il se passe. » Il sortit, descendit vers la cuisine, aperçut au passage les deux ânesses dans la cour et par terre le saladier renversé. Parfait, parfait. En voilà deux qu'on leur compte. Délicatement, il recueillit les feuilles éparses de la salade, les remit dans le saladier et les porta à la jeune fille. Je vous la porte moi-même. pour ne pas vous faire attendre plus longtemps, un aussi rare et délicieux régal. » Dès que la jeune fille en eut mangé quelques bribes, elle perdit à son tour sa forme humaine et fut également métamorphosée en une ânesse qui s'en alla, comme les autres, galoper dans la cour. Après s'être débarbouillé la figure afin qu'elle le reconnusse, le jeune chasseur descendit dans la cour et leur dit: « Ah, vous avez eu la récompense que méritait votre perfidie, traîtresse !» Il attacha les trois ânesses à la même corde pour les emmener au loin, marchant jusqu'au premier moulin qu'il vit. « Écoutez, mon brave, dit-il au meunier, j'ai là trois mauvaises bêtes qui m'en ont assez fait voir et que je ne veux plus garder. Si vous voulez bien les prendre et les traiter comme je vous le dirai, je suis prêt à vous payer le prix qui vous plaira. »
Oh, pourquoi pas, fit le meunier. Tout dépend de ce que vous exigez que je leur donne.
Oh, c'est très simple, dit le chasseur.
Il désignait la vieille ânesse qu'était, hein, chers auditeurs, la sorcière.
À celle-ci, trois rations de coups et une ration de foin par jour.
Puis il désigna la servante.
À celle-là, trois rations de foin et une ration de coup.
Et à la dernière, trois rations de foin, sans le bâton.
Il n'avait pas le cœur de faire battre la demoiselle. Il lui suffisait de l'avoir changée en ânesse. Cela fait, le chasseur s'en revint au château, où il n'eut pas de peine à trouver tout ce qu'il lui fallait. Quelques jours après, le meunier vint lui-même lui annoncer que la vieille ânesse, celle qui recevait trois rations de bâton pour une ration de foin, était morte. Quant aux deux autres, qui ont pourtant trois rations à manger par jour, si elles ne sont pas mortes encore, je pense que cela ne saurait tarder tellement elles sont tristes.
Le chasseur s'attendrit à ces nouvelles. Et, oubliant sa colère, il dit au meunier qu'il pouvait les lui ramener.
Quand il les revit, il leur fit manger la bonne salade, vous savez, chères auditrices, celle qui transforme une ânesse en une humaine. Et elles retrouvèrent leur forme humaine. Tombant à genoux devant lui, la ravissante jeune fille implora son pardon.
« Oh, mon chéri, pardonnez-moi tout le mal que j'ai pu vous faire. J'y étais contrainte par ma mère et tout cela a été fait contre mon gré. Je vous aime de tout mon cœur. Vous trouverez votre manteau magique dans une armoire où ma mère l'a serré. Quant au cœur de l'oiseau, avec un vomitif, il me sera facile de vous le rendre. »
Et l'amoureux chasseur ne partageait plus cet avis. « Tu n'as qu'à le garder. Ce sera tout pareil pour nous, puisque tu vas devenir mon épouse. » Ils célébrèrent leurs noces et furent heureux ensemble jusqu'à leur mort.
Chers auditeurs et chères auditrices, c'est sur une musique aussi chaleureuse, chargée d'amour, que nous nous quittons pour nous retrouver la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.